Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Voilà, c'est une joie pour moi de me trouver au milieu de vous ce soir. Je viens de Bretagne, je ne suis pas breton. Je suis un membre de la famille Daubois, grande famille de pasteurs. Il y a de nombreux pasteurs qui sont issus de cette famille. C'est vrai que celui qui était le plus connu, c'était mon oncle Jules, décédé maintenant il y a 2 ou 3 ans. Et parfois, c'est même assez souvent, on nous prend l'un pour l'autre. Alors, je suis habitué à ce genre de problème, c'est pas grave. Alors, moi, je suis Jean-Marc, le neveu. Voilà. Alors, pour me situer peut-être un peu plus, je suis d'origine huguenote. Je disais à nos amis qui nous recevaient tout à l'heure qu'un de mes ancêtres a fini ses jours en Suisse après avoir été galérien pour la foi. Et il a été racheté par des chrétiens suisses. Ce qui fait qu'il n'a fait qu'un temps de galère limité, hein, je n'ai pas exactement réussi à situer, entre 2 et 4 ans. Alors c'est toujours bien sûr pour nous une joie de nous trouver en Suisse aussi. En tant qu'huguenot ou descendant de huguenot, j'ai toujours eu à cœur de revenir aux sources. Et je me suis rendu compte assez rapidement, j'avais 18 ans, que les sources de notre foi, elles sont à Jérusalem. Comme nous lisons dans un psaume, il nous est dit « Tous ceux qui chantent et tous ceux qui dansent disent « Toutes mes sources sont en toi ». Et c'est la raison pour laquelle, à l'âge de 18 ans, je me suis rendu en Israël pour la première fois. Et j'y suis retourné souvent. Et au bout de quelques années, après avoir terminé des études bibliques en Angleterre, j'ai souhaité compléter ma formation biblique à Jérusalem, à l'université hébraïque. C'était quelque chose d'assez peu courant à l'époque. Et j'ai étudié là ce que l'on appelle à la fois l'Ancien Testament, plus exactement l'histoire du peuple d'Israël, l'archéologie biblique, et puis le Nouveau Testament, avec un professeur juif orthodoxe qui nous enseignait le Nouveau Testament. Oui, c'était très très intéressant. C'était un regard tout à fait nouveau sur le Nouveau Testament. Il faut dire que cet homme avait lui-même été, pendant la Shoah, il avait été caché par des chrétiens tchèques qu'on appelait les frères Moraves. Et il avait eu toute une ouverture vers Jésus. Plus tard, nous étions devenus amis et on a pu s'entretenir assez intimement et nous a fait des confidences montrant qu'il avait une foi certaine en Jésus, le Messie d'Israël. Alors voilà, donc ici pour situer, peut-être un dernier mot avant d'entrer dans le vif de notre sujet, pour dire que j'ai été 35 ans pasteur en Bretagne. Et depuis 2 ans, donc, j'ai laissé cette église que j'ai fondée et je me consacre à un ministère itinérant. Je crois que vous avez fort bien fait de vous intéresser à cette question d'Israël. Et ce soir, donc, on m'a demandé de vous parler d'un sujet qui n'est pas facile. C'est de ces 3 chapitres fondamentaux, 9, 10 et 11 de l'Épître aux Romains, au travers desquels Paul traite de ce qu'il appelle le mystère d'Israël. Alors, c'est quelque chose qui demanderait évidemment des heures et des heures si l'on voulait s'arrêter sur ces 3 chapitres. Et bien sûr, nous ne pourrons ce soir que dans le court laps de temps qui nous est imparti qu'effleurer ce sujet. Je voudrais simplement lire 2 versets de ce long texte que nous n'aurons pas le temps non plus de lire in extenso. Je vous invite à le faire chez vous à tête reposée. Mais je voudrais simplement lire 2 versets. D'abord dans le chapitre 11, verset 25. Donc Romains 11, verset 25. « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez pas comme sage. » Et ensuite, toujours dans ce même chapitre 12, le verset 33, la conclusion que l'apôtre Paul, par laquelle il termine son propos sur cette question d'Israël, « aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, ses voies incompréhensibles, en effet, qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, tout est à lui, par lui et pour lui, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » On m'avait demandé deux choses, vous parler sur ce sujet, et on m'avait aussi demandé de donner un titre provocateur à mon propos. Alors j'ai pensé donner ce titre, « L'Épître aux Romains a-t-elle révélé tous ses secrets ?» Alors vous allez peut-être penser que je vais ouvrir la bouche pour révéler des choses cachées depuis la fondation du monde. Alors si c'est ça, vous allez sûrement être un peu déçus. C'était simplement un propos provocateur, bien sûr. Peut-être pour introduire cette réflexion, je voudrais d'abord évoquer une église catholique que l'on trouve à Rome, qui fait partie de l'itinéraire de tout touriste qui visite la ville de Rome. C'est l'église de Sainte-Sabine. Cette église fait partie de cet itinéraire des touristes pour une raison très simple, c'est qu'elle possède de splendides mosaïques byzantines. Et ces mosaïques représentent deux jeunes femmes. Et au-dessus de ces deux jeunes femmes, il y a en dessous plus exactement deux inscriptions. « Ecclesia ex circoncisione » et « Ecclesia ex gentibus ». L'église des circoncis et l'église des gentils, des païens. Ces deux jeunes femmes représentent d'une part donc l'église juive et deuxièmement l'église des païens qui se sont tournés vers Jésus. Au-dessus de ces deux jeunes femmes, il y a la silhouette de deux apôtres. Au-dessus de celle qui représente l'église de la circoncision, on y voit l'apôtre Pierre, l'apôtre qui avait été envoyé pour Israël, selon ce qui nous est dit dans les Épîtres. Et au-dessus de la jeune femme qui représente l'église des païens, on y distingue la figure de l'apôtre Paul, l'apôtre des gentils. Et c'est par cette expression que Paul commence son épître aux Romains. Paul, apôtre des gentils. Et voilà, notre épître aux Romains, vous le savez, est une épître fondamentale. Je voudrais, avant d'entrer justement dans ces trois chapitres, qui sont notre sujet de ce soir, essayer de situer ces trois chapitres dans l'ensemble de l'Épître aux Romains. Depuis les réformateurs, on a évidemment privilégié dans nos milieux issus de la Réforme cette Épître aux Romains comme étant la base, le détonateur de la Réforme. On sait en effet le rôle que cette Épître a joué dans cette extraordinaire découverte que fut celle de Luther, que l'homme est justifié non point par les œuvres de la loi, mais par la foi, la seule foi en Jésus-Christ. Et depuis, notamment dans nos milieux issus de la Réforme, on a considéré que le but essentiel de Paul en écrivant l'Épître aux Romains était justement d'exposer ce qu'il appelle son évangile, c'est-à-dire le salut par la foi. Et finalement, les trois chapitres 9, 10 et 11 qui traitent du mystère d'Israël venaient là pour beaucoup de commentateurs comme une sorte d'appendice de la question centrale qui avait été traitée et qui concernait justement le salut par la foi. Je ne suis pas absolument certain que cette vision soit tout à fait juste, même si bien sûr j'adhère pleinement à cette idée du salut par la foi, ça va sans dire. Mais je ne pense pas que ce soit la préoccupation essentielle de Paul. Paul se rendait dans cette église de Rome, qui était une église, comme justement l'indique bien cette église de Sainte Sabine que j'évoquais tout à l'heure, qui était une église composée à la fois, faut-il dire, des chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine païenne. Et nous lisons notamment à la fin de l'Épître que des propos qui semblent montrer que la coexistence entre ces deux tendances de l'Église de Rome n'était pas toujours évidente. Et il semble bien que le but de Paul était justement d'essayer d'harmoniser ces relations entre chrétiens juifs et chrétiens d'origine païenne. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est amené à exposer justement ce problème du salut par la foi. C'est le but, il le définit dans les premiers versets de notre épître, et il nous montre deux choses. Qu'il n'y a de salut pour le juif comme pour le païen qu'en Jésus. Et uniquement par la grâce qui est accordée en réponse à la foi en Jésus. Et là, immédiatement, il y a une objection qui naît dans l'esprit de Paul. Vous trouvez ça au chapitre 3, verset 31 de l'Épître aux Romains. Paul pose cette question. Quand nous avons dit que le salut est par la foi en Jésus, tant pour le juif que pour le grec, ça veut dire pour le non-juif, est-ce que alors nous remettons en question la Torah ? Est-ce que nous annulons la Torah par la foi ? Et Paul emploie une expression très forte. C'est hors de question. Notre évangile, qui proclame que le salut s'obtient par la foi, n'est absolument pas une remise en question de la Torah d'Israël. Au contraire, nous confirmons la Torah. Alors vous remarquerez que j'emploie le mot « Torah » et non pas le mot « loi », comme le font la plupart de nos traductions. Il est vrai que le mot grec qui est employé là, c'est le mot « nomos », qui effectivement signifie « loi ». C'est une expression qui a déjà été employée par les traducteurs de l'Ancien Testament grec, la version des Septante, comme on l'appelle, parce que justement dans la langue grecque, il n'avait aucun mot qui était véritablement équivalent au mot hébreu « Torah ». Alors ils ont traduit par « nomos », ce qui n'est pas faux, mais ce qui est très réducteur, la Torah, c'est beaucoup plus que la loi. Même s'il y a des parties législatives dans la Torah, ça vient d'un mot grec qui signifie enseignement. La Torah, c'est l'enseignement. L'enseignement que Dieu a donné à son peuple d'Israël et au travers de son peuple d'Israël à tout être humain. Et alors, il y a de nombreux passages chez les prophètes notamment, qui annoncent que quand le Messie viendra, ce Messie dont il est déjà question dans la Torah, ça veut dire dans les 5 livres de Moïse, il y a déjà de nombreuses prophéties messianiques dans les 5 livres de Moïse, quand le Messie viendra, toutes les nations de la terre se tourneront vers la Torah d'Israël. Vous avez ça, par exemple, dans le chapitre 2 du prophète Ésaïe. Vous avez ça dans de très nombreux psaumes. Vous avez ça aussi dans de nombreux autres passages prophétiques. Et par conséquent, à l'époque de Jésus, on s'attendait à ce que les païens, les non-juifs, un jour entre aussi dans l'alliance que Dieu avait conclue avec le peuple d'Israël. On ne savait pas comment, cela se ferait, mais on s'attendait que d'une manière ou d'une autre cela soit, et cela serait un des résultats justement de la venue du Messie. Alors justement ici, nous avons l'habitude, nous, d'opposer la grâce et la loi, d'opposer la foi et la loi. Or, Paul ne fait pas cette opposition, pour une bonne et simple raison. Et là, je citerai tout simplement un diplomate israélien décédé depuis de nombreuses années, qui, après sa retraite, s'était consacré au dialogue avec les chrétiens. Cet homme s'appelait Shalom ben Chorin, si certains ont entendu parler de lui. C'était un homme qui a écrit notamment un livre sur Paul, qu'il a appelé « Mon frère Paul ». Et cet homme se trouvait justement ici en Suisse, dans le canton de Vaud, pour faire une conférence pour présenter son livre, alors il y a de cela peut-être 40 ans. Et il a eu cette boutade. Pourquoi Paul, justement, ne s'est-il pas inscrit en opposition avec la Torah d'Israël ? Parce que Paul n'était pas un pasteur de l'église réformée du canton de Vaud, disciple de Karl Barth, mais un rabbin juif. Voilà. Je crois que tout est dit. Il y a un texte fondamental qu'on trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, qui nous dit ceci, que lorsque Moïse sera mort, Dieu suscitera au peuple d'Israël un prophète, c'est Moïse qui parle, il dit, Dieu te suscitera un prophète comme moi, et vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché de mon peuple. Mais le prophète qui aura l'audace de dire quelque chose, qui aura été contraire finalement à ce qui a été dit à Moïse, ce prophète sera considéré comme un faux prophète. Ça veut dire que tout enseignement qui n'est pas compatible avec la Torah d'Israël n'est pas la vérité quand on reprend ce texte. Et c'est pourquoi Paul nous dit, l'évangile que je vous apporte, il n'abolit pas la Torah, il le confirme. Ça veut dire, il est parfaitement cohérent avec ce qu'enseigne la Torah. Et maintenant, petit à petit, nous approchons de nos trois chapitres, 9, 10 et 11. Paul expose justement ce qu'était le but de la Torah. En grec, il emploie un mot, le mot « telos », qui signifie la fin, mais qui signifie aussi le but. La plupart des traducteurs du Nouveau Testament ont rendu ce mot par la fin, car Christ est la fin de la loi. Et souvent, on accomplit ce texte comme « Christ est venu mettre fin à la loi ». Je pense personnellement qu'il faut traduire par « Christ est le but de la loi ». De la Torah. Et Paul nous redit cela aussi dans l'Épître aux Galates, quand il nous dit que la Torah était un pédagogue pour nous conduire jusqu'au Messie. Et voilà, Paul expose dans ces trois chapitres effectivement que lui, Paul, d'abord, a une controverse avec son peuple d'Israël. Et puis finalement, au travers de cette controverse, c'est Dieu lui-même qui a une controverse avec le peuple d'Israël. Il y a un désaccord profond, il y a un problème grave entre Dieu et son peuple. Et finalement, cette controverse, ce problème, il porte sur quoi ? Sur l'interprétation de la Torah. Non pas sur la Torah elle-même, jamais la Torah n'a été remise en cause, mais Paul dit, les Juifs qui s'opposent à moi et à mon évangile ont mal compris la Torah. Ils pensent qu'on obtient la justification en respectant les œuvres de la Torah, alors que le sens véritable de la Torah, de la Torah d'Israël, ça a été de montrer justement que l'homme ne peut pas être sauvé par ses propres œuvres, mais uniquement le conduire à celui que les prophètes avaient annoncé, ce Rédempteur qui viendrait de Sion, comme c'est écrit dans notre texte, dans notre chapitre 11, verset... Voyons, je retrouve ici... Enfin, bon, vous retrouverez ça. Un Rédempteur viendra pour Sion et il écartera d'Israël ses péchés. C'était cela que le peuple d'Israël devait recevoir et devait accepter de telle sorte que l'Évangile est d'abord pour le Juif, avant d'être pour le non-Juif, avant d'être pour le Grec. Ça, c'est toute la démonstration de Paul. Alors maintenant, il y a un autre problème. Le problème qui se pose avec les païens. Parce que justement, Paul dit maintenant, à cause justement de cette œuvre de Jésus qui meurt et qui ressuscite, à la fois pour les Juifs et pour les païens, il n'y a plus de différence entre le Juif et le Grec. Tous sont péchés et tous sont gratuitement justifiés par la foi. Ça veut dire une chose, ça veut dire que dans l'Église, dans cette entité nouvelle qui est créée de ce rassemblement des deux, du juif et du non-juif, parce que c'est ça l'Église. Là, j'insiste beaucoup là-dessus. Quelquefois, on me demande de faire des conférences sur le thème « L'Église et Israël » ou « Israël et l'Église ». Et je dis, ça s'est mal posé le problème. Car l'Église est une entité juive. L'Église ne peut pas exister sans la présence de Juifs en son sein. Et je reviens à cette mosaïque de l'Église de Sainte Sabine à Rome. L'Église a toujours deux piliers. L'Église de la circoncision et l'Église issue de la gentilité. C'est ce rassemblement des deux dans un seul corps qui crée l'Église, comme on le voit dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, ce qui est nouveau, c'est que dans ce corps, et ça c'est révolutionnaire, les païens qui ont cru en Jésus sont à égalité avec les Juifs. Les Juifs n'ont aucune supériorité sur les païens. Mais voilà, justement, maintenant, il y a un problème qui se pose pour les païens. Les païens qui autrefois, comme le dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Éphésiens, étaient étrangers. Il emploie ce mot. Athéoi, sans Dieu, athée. Ils étaient sans Torah, dit-il. Ce qui est une malédiction. Être sans Torah est une malédiction. Comme être sans Dieu, sans espérance, sans Messie. Sans rien, étranger aux alliances qui avaient été conclues avec le peuple d'Israël. Et vous qui étiez maintenant loin, autrefois loin, vous avez maintenant été rapprochés par le sang de Jésus. Et maintenant, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et vous avez reçu tout cela par quoi ? Par le Messie d'Israël, par Jésus. Et c'est exactement la même image que Paul emploie justement dans notre chapitre 11, quand il nous dit « Vous êtes des branches d'un olivier sauvage qui ont été greffées sur l'olivier naturel d'Israël ». Ça veut dire cette greffe, comme l'ont constaté des botanistes qui disent « Ça ne se fait pas de greffer des branches d'un olivier sauvage sur un olivier naturel ». Paul ne connaissait rien à la botanique. Paul connaissait bien la botanique, mais justement, il voulait montrer que c'était quelque chose qui n'était pas naturel. Cette grève du païen sur l'olivier d'Israël, elle est contre la nature, contre ce qui est normal. Alors, greffé sur l'olivier d'Israël. Et ça, nous dit l'apôtre Paul, ou laisse entendre l'apôtre Paul, ça veut dire quelque chose d'important pour le païen. Ça veut dire que ton identité chrétienne, toi païen, tu la reçois d'un autre. Tu la reçois du peuple d'Israël. Ton identité chrétienne, elle est inséparable du peuple d'Israël. Jésus dira cela aussi à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Tu ne peux pas exister en dehors d'Israël. Et comme nous disions tout à l'heure, citant le psaume, toutes tes sources sont là-bas, elles sont à Jérusalem. Alors maintenant, objection. Alors, comment se fait-il que ce peuple, par lequel nous, païens, nous avons reçu toutes ces choses, cette adoption, ce salut par la foi, le fait que maintenant nous sommes entrés dans les alliances qui ont été conclues par Dieu avec Israël, que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, que nous soyons exactement sur un pied d'égalité avec le peuple d'Israël, nous qui n'y étions rien, comment fait-il que ce peuple par lequel nous avons reçu toutes ces choses soit dans sa grande majorité resté en dehors du salut? Et là, nous sommes au cœur du débat, nous sommes au cœur de ce que l'apôtre Paul appelle le mystère d'Israël. Nous sommes ici dans un paradoxe. Ce peuple par lequel nous, païens, nous sommes ce que nous sommes, et jusqu'à ce jour, dans sa grande majorité, il n'est pas entré dans son héritage. Alors comment comprendre ça? Et c'est justement cette question qui vient tout naturellement, après qu'ait été exposé le salut par la foi, que Paul va répondre. Première chose, et là je vais être obligé d'aller très vite, mais nous pouvons relire les premiers versets du chapitre 9, où Paul nous dit ceci. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur, car je souhaiterais moi-même être anathème, séparé du Messie pour mes frères, mes parents, selon la chair. Et maintenant, ici, écoutez bien la suite. Et notez notamment les temps. Tout ce que Paul évoque par la suite est au présent. Mes parents, selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent et n'ont pas appartenu l'adoption, la gloire, les alliances, la Torah, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Messie qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Ici, ce que je voudrais faire ressortir, c'est que Paul met toutes ces choses au présent. Le peuple d'Israël, aujourd'hui, comme au temps de Paul finalement, parce que les choses n'ont pas beaucoup changé depuis l'époque, le peuple d'Israël, bien que dans l'incrédulité vis-à-vis de son Messie, reste cependant le peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi, le peuple qui a reçu toutes ces choses que Paul évoque. Elles sont son héritage jusqu'à ce jour. Et le fait que le peuple d'Israël soit dans l'incrédulité n'a pas remis en cause son élection. Paul reprendra ce thème dans le chapitre 11 quand il dira « Parce que les dons et les appels de Dieu sont sans repentance. » Dieu ne se repent pas. Quand bien même ceux auxquels il s'est adressé seraient-ils infidèles, le peuple d'Israël, il reste cependant le peuple aimé de Dieu, il reste le peuple élu et son élection aujourd'hui est totale. Alors maintenant, il y a une autre question qui se pose, qu'on me pose aussi. Alors faut-il entendre que pour autant, dans leur incrédulité, les Juifs sont sauvés? Je dis non. Paul fait ici une différence entre l'élection et le salut. L'élection, elle reste, elle demeure, même quand de la part d'Israël, il y a incrédulité. Mais pour être sauvé, il faut que le Juif, individuellement, croie en Jésus exactement comme le non-Juif. De telle sorte que pour l'apôtre Paul, il n'y a pas deux chemins de salut, un chemin qui concernerait les païens et un chemin qui concernerait les Juifs, et qui serait celui justement du respect des œuvres de la Torah, non pas de la Torah comme je disais tout à l'heure, mais des œuvres de la Torah. il n'y a qu'un seul moyen de salut, ça a été toute la première partie de sa démonstration pour les juifs et pour les non-juifs. Mais même dans leur incrédulité, les juifs restent le peuple élu de Dieu. Et Paul va employer une expression très paradoxale dans le chapitre 11. Il nous dit ceci, verset 28. « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. » Et là, nous nous trouvons au cœur de ce dilemme, au cœur de ce mystère, au cœur de cette chose tellement difficile à comprendre. Et ça, je sais que c'est une chose difficile à comprendre. Il y a deux schémas théologiques qui se télescopent. Le thème de l'élection et le thème du salut. À cause de leur Père, ils gardent leur élection. Mais à cause de l'Évangile, par rapport à l'Évangile, s'ils restent dans l'incrédulité, ils sont dans un état d'opposition à Dieu. Ils sont dans un état d'inimitié vis-à-vis de Dieu. Et telle est la condition paradoxale du peuple d'Israël. Aimé et ennemi. Aimé de Dieu et dans une inimitié avec Dieu. Alors là, le païen va réagir encore une fois en disant mais pourquoi ça? Pourquoi Dieu permet-il cette situation incroyable, invraisemblable? Et Paul a cette réponse, à cause de vous. Et là, nous avançons un peu plus dans ce mystère. Je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Et là, il nous faudrait nous arrêter longuement sur le chapitre 10. Le chapitre 10 est un chapitre qui a été souvent étudié par les théologiens, notamment des églises issues de la Réforme, parce que ceux qui étaient partisans de la prédestination, ils voyaient là, disons, les textes qui plaidaient le plus clairement en faveur justement de leur doctrine d'une prédestination. Finalement, on ne va pas entrer dans ce débat ce soir, évidemment, ce n'est pas notre sujet. Mais qu'est-ce que veut dire Paul dans ce chapitre 10? Il nous dit ceci. Le peuple d'Israël est tombé dans l'endurcissement. Il emploie un mot, un faux pas. C'est très intéressant cette expression. Un faux pas, ce n'est pas une catastrophe. Il a fait un faux pas. Mais attention, dit l'apôtre Paul, il faut placer deux limites à cet endurcissement d'Israël. Premièrement, une limite dans l'espace. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que si une majorité du peuple d'Israël est tombée dans l'endurcissement, il y a un reste qui a cru. Il y a une partie du peuple d'Israël qui a cru. Il ne faut quand même pas oublier que les apôtres étaient juifs. Et quand bien même il n'y en aurait plus qu'un, dit Paul, il y a moi. Paul, il ne faut pas oublier que je suis juif. Très intéressant. Comment Paul, tu dis tu es juif? Mais non, tu n'es plus juif, tu es chrétien maintenant que tu as cru en Jésus. Tu as cessé d'être juif. Et il y a de très nombreux textes, je n'ai pas le temps de le prendre ce soir, où Paul réaffirme, je suis juif. Il dira même, je suis pharisien. Bon, passons. Donc, dit Paul, il y a une limite dans l'espace. Car même aujourd'hui, quand le peuple d'Israël est dans cet endurcissement, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Un reste qui a cru. Et ce reste, dit l'apôtre Paul, il est comme les prémices que le peuple d'Israël, les prémices de ces récoltes que le peuple d'Israël offrait dans le temple. Et quand il offrait à Dieu les prémices de ces récoltes, le peuple d'Israël disait en quelque sorte, je te donne l'ensemble de ce que tu m'as donné. Et Paul dit ceci, le fait qu'il y ait déjà un reste, si petit soit-il qui est cru, est une garantie qu'un jour l'ensemble se tournera vers Jésus. Et là, il y a une deuxième limite, non seulement une limite dans l'espace, mais une limite dans le temps. Le reste, les prémices, dit l'apôtre Paul, font que toute la patte d'Israël est sainte. Ça veut dire qu'un jour ou l'autre, un jour viendra, et il le dit à la fin de son texte, où ce voile qui est sur le visage d'Israël sera ôté, et où tout Israël se tournera vers son Messie. Mais alors pourquoi justement ce temps intermédiaire où la majorité justement reste dans l'incrédulité? Paul dit ceci, et là c'est presque scandaleux ce qu'il va nous dire. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a endurci son peuple. Ah! Alors, Seigneur, dira tout de suite le lecteur, et Paul est immédiatement conscient de l'objection, il évoque. Mais alors, comment est-ce que Dieu peut encore juger? Si c'est lui qui endurcit, comme ça, souverainement, il n'y a plus de jugement possible. Paul dit, attention, c'est pas si simple. Celui qui est endurci est aussi responsable de son propre endurcissement jusqu'à un certain point. Mais ceci dit, c'est vrai que cet endurcissement partiel d'Israël, et il insiste beaucoup sur ce mot partiel d'Israël, entre mystérieusement dans le plan de Dieu. Il fallait qu'il en soit ainsi. Ah, il fallait qu'il en soit ainsi, pourquoi? Là, nous avons ce que mon professeur de Nouveau Testament, professeur Flusser, que j'évoquais tout à l'heure, appelait un cycle prophétique. Un cycle dont nous rencontrons la première apparition dans le chapitre 15 du livre de la Genèse. Là, Abraham reçoit les promesses de Dieu que sa descendance posséderait le pays dans lequel Dieu l'a conduit, le pays de Canaan. Et le Seigneur lui fait une promesse, il lui dit ceci, « Sache que tes descendants seront captifs pendant 400 ans dans une nation qui les opprimera. Et ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront dans ce pays. » Et ça, c'est quelque chose déjà de très surprenant. Comment? L'histoire d'Israël va commencer par l'oppression de ce peuple. Ce peuple à peine né va connaître l'oppression, l'esclavage de l'Égypte pendant 400 ans, 4 siècles, mais c'est un temps considérable. Mais qu'est-ce que ce peuple a fait, Seigneur, pour qu'il soit traité de telle manière? Une oppression de 400 ans. Et le Seigneur répond, parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas arrivée à son comble. Lo shalem avon ha'emori ad ena, dit le texte hébreu. Et là, Paul emploie un mot très intéressant dans le chapitre 11. Il dit, je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, verset 25. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la plénitude des païens soit entrée. En grec, c'est le mot pléroma, qui correspond exactement au mot shalem de notre texte de Genèse 15. La plénitude. Une plénitude du péché des Amoréens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu aime les païens, même pécheurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et parce que Dieu a tellement de miséricorde, d'amour pour les païens, il donne du temps aux pécheurs pour qu'ils se repentent. Alors ça, c'est un thème qui est très, très répandu dans la Bible. Je pourrais prendre de nombreux textes, je ne vais pas le faire parce que mon temps passe trop vite. Mais cette idée de la patience de Dieu, Dieu patiente vis-à-vis du pécheur. Et souvent, et c'est un thème aussi que Paul développe donc au début de l'Épître aux Romains, quand il dit aux pécheurs d'entre les païens, « Tu ne te rends pas compte que par ton cœur impénitent, tu te méprends sur la patience de Dieu. Tu penses que Dieu est faible. Mais au contraire, la patience de Dieu te pousse à la repentance. Et par ton cœur impénitent, qui ne comprend pas l'amour de Dieu, qui ne comprend pas la patience de Dieu, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Dieu patiente avant d'exercer ses jugements. Vous trouvez ce thème aussi dans le livre des psaumes. Et pendant que Dieu patiente vis-à-vis du pécheur, le juste est livré aux mains des pécheurs et il souffre. Et c'est tout le thème du livre des psaumes, le juste qui souffre, qui crie « Seigneur, je ne comprends pas, je suis juste. Et tu laisses les méchants dominer sur moi, tu ne me délivres pas, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas, c'est Asaph. Mes pieds allaient glisser, parce que je voyais le bonheur des méchants, tu n'interviens pas, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends plus. » Dieu laisse souffrir le juste à cause de l'amour qu'il a pour le méchant, pour que le méchant ait l'occasion de se repentir. Mais il y a une limite à cette patience de Dieu. La première, c'est ce que les justes peuvent supporter. Dieu ne permettra pas que les méchants dominent sur le lot des justes, dit le psalmiste. Et Dieu interviendra pour sauver le juste des mains du méchant au dernier jour. Et puis quand il est certain que le méchant ne veut pas se repentir, le jugement tombe. Et voilà, Dieu donne un temps de grâce aux Amoréens à l'époque de la sortie d'Égypte, et il donne un temps de grâce aux païens que nous sommes. Il y a un texte très intéressant qu'on trouve dans le livre des Actes au chapitre 3. Après la guérison du paralytique de la belle porte, Pierre s'adresse au peuple, et après leur avoir prêché l'évangile, il conclut en ces termes « Repentez-vous donc et convertissez-vous de vos péchés, afin que viennent les temps de rafraîchissement et que le Seigneur envoie du ciel, celui qu'il a promis, Jésus, par lequel doit avoir lieu le rétablissement de toutes choses », ce qui est une traduction grecque d'une expression hébraïque très connue des rabbins jusqu'à nos jours, « Tikkun Olam », la réparation de la brisure du monde. Alors si nous considérons cette parole de Pierre, qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons un seul instant que le peuple d'Israël ait répondu à cette invitation de Pierre. Et que ce jour, quelque temps après la Pentecôte, tout le peuple d'Israël ait cru en Jésus comme Pierre l'invitait à le faire. Que se serait-il passé ? Ben, ce que Pierre avait dit. Jésus serait revenu à ce moment-là, quelques jours après la Pentecôte. Et ni vous ni moi ne serions là ce soir. Voyez-vous, il fallait que le peuple d'Israël devienne ennemi à cause de vous, païens. Pour que vous, païens, vous ayez un temps de grâce, de telle sorte que l'Évangile soit annoncé aux extrémités de la terre, comme Jésus l'avait dit à ses disciples, afin qu'au jour, au dernier jour, dans ce jour de la réparation de la brisure, du rétablissement de toutes choses, en même temps que le peuple d'Israël, il y ait des gens de toutes les nations qui soient sauvés. Vous comprenez ça ? Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est finalement ce mystère que Paul ne veut pas que nous ignorions. Pour que nous puissions être sauvés, nous païens, qu'il y ait cette plénitude de tous ces élus que Dieu a connus dès les origines d'entre les païens, il fallait que pour un temps le peuple d'Israël soit retranché de son héritage, soit aveuglé, souffre comme conséquence justement de cet aveuglement, comme ses ancêtres avaient souffert en Égypte quand Dieu avait voulu donner un temps de grâce à ces Amoréens qui étaient pécheurs. Mais il y a un terme, la plénitude. Quand les païens auront mis le comble et quand tous les païens seront rentrés, Israël rentrera à son tour dans son héritage. Et à ce moment-là, ce sera la fin. Tout Israël, ça veut dire tout Israël vivant à cette période sera sauvé. Parce qu'ils croiront tous, Paul le dit d'une manière explicite, et en même temps, tous ceux des païens qui auront cru seront sauvés avec le peuple d'Israël. Nous avons, je vais terminer là-dessus, une magnifique vision de ce que Paul ici annonce dans l'Apocalypse de Jean, au chapitre 7. C'est un texte qui est souvent très mal compris à cause de l'usage qu'en ont fait et qu'en font les soi-disant témoins de Jéhovah. On y voit une fête de Soukhot céleste, fête de Soukhot, fête des tabernacles, qui est la fête eschatologique par excellence, à laquelle, selon ce que nous disions en commençant, d'après les prophètes, les païens seraient aussi associés. Et jusqu'à aujourd'hui, pendant le dernier jour de Soukhot, de la fête de Soukhot qui s'élève 8 jours, le dernier jour de la fête, on prie pour la conversion des nations au Dieu d'Israël. Et nous voyons cette fête de Soukhot céleste. Et il y a là 144 000 juifs qui viennent de toutes les tribus d'Israël, qui sont devant le trône de Dieu avec des robes blanches et des palmes à la main, ce qu'on appelle en hébreu loulav, c'est-à-dire le végétal avec lequel on célèbre cette fête de Soukhot. Symbole de victoire, symbole de salut. Et voilà, 144 000, c'est 12 fois 12 000. 12, dans la mathématique apocalyptique, ça veut dire la plénitude. 12 fois 12 000, ça veut dire tout Israël sauvé. Tout Israël qui, selon ce que nous dit ici l'apôtre Paul, a cru en Jésus au dernier jour. Et maintenant peut célébrer le Seigneur dans cette fête qui durera pour l'éternité. Et puis derrière, ce peuple d'Israël racheté, ce peuple d'Israël sauvé, ce peuple d'Israël qui est revenu de son faux pas, dont le voile a été ôté, il y a une grande foule immense de toute langue, de toute tribu, de toute nation, que personne ne peut compter, et qui sont associés à la louange d'Israël. Eux aussi sont sauvés, à cause justement de cette réalité. Justement, Dieu a permis l'endurcissement d'Israël pour donner un temps de grâce aux païens. Vous connaissez ce texte aussi qu'on va rappeler donc après-demain au moment de l'ascension, quand dans le chapitre 1er du livre des Actes, les apôtres disent à Jésus: « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus ne dit pas qu'il ne fera pas. Il laisse même entendre qu'il le fera. Il dit simplement: « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. » Avant le rétablissement du royaume d'Israël, il faudra que l'Évangile soit prêché à toutes les nations. Ça ne va pas se faire en 15 jours. Donc l'endurcissement d'Israël va durer longtemps, jusqu'à ce que les extrémités de la terre aient été atteintes par l'Évangile. Et quand cela aura été, alors le voile sera ôté. Tout Israël sera sauvé. J'étais il y a un an en Afrique du Sud, parmi les Zoulous. Vous savez, Afrique du Sud, c'est les extrémités de la terre. Hein. Quand on était en face de l'océan là-bas, c'était l'Antarctique. Il n'y a plus personne à évangéliser dans l'Antarctique, hein. Et là, quand j'entendais ces chrétiens zoulous qui chantaient les psaumes de David dans leur langue, je me disais: tiens, les apôtres ont véritablement atteint, l'évangile a véritablement atteint l'extrémité de la terre. Et voyez-vous, ce que l'apôtre Paul nous dit ici, c'est ceci. L'évangélisation des nations ne joue pas contre le peuple d'Israël, mais est la condition du salut d'Israël. Et Paul dit: c'est la raison pour laquelle moi je prêche l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre, pour susciter la jalousie de ceux de ma race. Je fais justement ainsi pour hâter leur salut. Plus vite l'évangile aura atteint les extrémités de la terre, et plus vite le peuple d'Israël sera sauvé. Alors, il y a un dernier texte, j'en aurai fini, c'est dans le chapitre 15. Des épîtres aux Romains, qu'en est la conclusion. Et Paul dit ceci: je dis que le Messie s'est fait serviteur des circoncis pour confirmer les promesses faites au Père, tandis que les païens bénissent Dieu pour sa miséricorde. Alors là, c'est très intéressant. Le Messie s'est fait serviteur des circoncis, il a été juif, il est né comme un juif, il a vécu comme un juif, il est mort comme un juif, et il règne comme le roi des juifs, comme c'était écrit sur la croix. Pourquoi ? Parce que Dieu avait une dette vis-à-vis de son peuple d'Israël. les promesses faites au Père, à Abraham, Isaac et Jacob. Mais Dieu n'avait aucun engagement vis-à-vis des païens. Les païens n'étaient l'objet d'aucune promesse de Dieu, d'aucun engagement de Dieu. Et si les païens sont ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est par la pure grâce de Dieu. Alors que ces païens bénissent Dieu pour cette grâce, pour cette miséricorde qui leur a été faite. Et Paul dit ceci, c'est pourquoi, nation, bénissez Dieu avec son peuple. Louez-le avec son peuple. Il cite un certain nombre de textes. Là, il y a un jeu de mots en hébreu quand on retraduit ça en hébreu. Parce qu'un juif en hébreu, ça se dit Yehoudi, ça veut dire quelqu'un qui loue. Les juifs sont les descendants de leur ancêtre Judas, Yuda. Sa mère, quand il est né, a dit « Apam Odeya, cette fois je louerai l'Éternel ». Le juif, c'est celui qui loue l'Éternel. Et toute la vie du juif est marquée par la louange à Dieu. La première chose qu'on fait quand on se lève le matin, on bénit Dieu. La dernière chose qu'on fait avant de se coucher, c'est de bénir Dieu. On bénit Dieu avant le repas, on bénit Dieu après le repas. On bénit Dieu pour les circonstances favorables et les circonstances défavorables. On bénit Dieu pour les joies et on bénit Dieu pour les peines. On bénit Dieu quand on voit une belle fleur. On bénit Dieu quand on a rencontré, quand on a fait une rencontre favorable. Toutes les circonstances de la vie sont une louange à Dieu. Et par conséquent, le juif, c'est celui qui loue. Et le Seigneur dit maintenant, Dieu Paul dit aux païens, vous les païens, vous n'êtes plus des étrangers. Vous aussi, louez Dieu avec son peuple, comme le fait cette grande foule qu'a vue Jean dans l'Apocalypse. Ça veut dire, entrez dans cette louange d'Israël. Vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors. Vous êtes dans cette Commonwealth d'Israël, dans cette entité. Israël n'est plus un peuple étranger pour vous. Alors justement, rappelez-vous de ça, vous païens. Et c'est ma conclusion, comme celle de Paul. Parce qu'Israël est dans une situation d'inimitié, vous auriez tendance à considérer qu'il est rejeté par Dieu et qu'il est devenu un peuple étranger pour vous. Il n'en est rien. Il reste aimé, et par conséquent, vous n'avez pas le droit d'avoir une attitude d'orgueil, ou vous n'avez pas le droit d'avoir une attitude d'hostilité vis-à-vis de ce peuple. Vous n'avez pas le droit. Son conflit est un conflit avec son Dieu. Et vous, païens, ne vous en mêlez pas, ce n'est pas votre problème. Vous, essayez de susciter la jalousie d'Israël en l'aimant et en lui faisant du bien. Voilà votre rôle vis-à-vis du peuple d'Israël. Et ces trois chapitres de l'Épître aux Romains sont le plaidoyer le plus vigoureux qui ait jamais été fait pour deux choses. La reconnaissance d'une Église juive. Alors ça n'a pas toujours été le cas, mais il y a toujours eu des juifs au sein de l'Église. Il y a des moments où ils ont été une poignée, mais ça suffit, comme le levain dans la pâte. Et la reconnaissance de nos frères juifs, et vous allez avoir des contacts avec les juifs messianiques, si j'ai bien compris, eh bien c'est ça. Ces deux figures que jusqu'au 5e siècle, 6e siècle, même à Rome, on avait conservé l'Église des circoncis et l'Église des incirconcis. Et puis la deuxième conséquence de ce plaidoyer pour la reconnaissance par les païens d'une Église juive, c'est la reconnaissance d'un peuple juif qui a sa place dans le plan de Dieu et une place autre que de rejoindre l'Église au dernier jour. Dieu a un avenir pour le peuple d'Israël. Ce peuple qui est ce qu'il est, qui est loin de Dieu, c'est vrai, en Jésus. Mais ce peuple que le Seigneur veut ramener au dernier jour. Un jour, ce conflit sur la Torah trouvera son accomplissement. Et c'est la raison pour laquelle, en tant que païens, nous avons aussi à considérer que nous avons à être dans ce courant de la Torah d'Israël. L'évangile n'est rien d'autre que la conséquence logique et normale de la Torah qui a été donnée à Israël. Alors, ça implique toute une redécouverte de nos racines juives. Dernièrement, un de mes collègues me disait qu'il avait eu contact avec un pasteur d'une église évangélique. Il disait, nous, nos racines sont romaines. Et moi, je n'ai pas envie de me remettre en question parce que ça coûterait trop cher de revenir à nos racines juives. Eh bien, c'était au moins très honnête et très lucide. L'évangile nous est arrivé effectivement par le biais de la philosophie gréco-romaine des pères de l'Église. Et là, il y a un problème. Je ne vais pas entrer dans ce problème ce soir, mais il est réel. Alors, je ne plaide pas, bien sûr, pour un retour au Shabbat, pour un retour à la cacheroute ou des choses comme ça. Ça, c'est judaïsé au sens mauvais du terme. Mais je plaide pour un retour à nos sources, retrouver contact avec avec le peuple d'Israël, qui doit être un peuple qui nous est proche. Il n'est pas un peuple étranger. Il est le peuple avec lequel, en tant que chrétien, nous sommes le plus proches. Et nous avons à être proches. Or, pourtant, un abîme nous en sépare, en général. Alors, quand Paul nous parle de ces choses, louez-le, nation, avec son peuple. Ce peuple n'est plus un peuple étranger. Il est celui par lequel s'accomplit l'espérance des païens. Le salut vient des Juifs, et c'est ce que Paul nous invite à redécouvrir, en dehors de toute inimitié, en dehors de tout sentiment de jalousie ou d'orgueil qui pourrait naître à cause de l'endurcissement partiel de ce peuple. On pourrait dire, au contraire, merci Seigneur d'avoir endurci ce peuple, parce que cela nous a permis d'être ce que nous sommes. Et maintenant, nous voulons rendre, non pas à ce peuple le mal, mais le bien qu'il nous a fait. Nous avons une dette vis-à-vis de ce peuple par lequel toutes ces choses nous sont arrivées. Nous avons une dette parce que Dieu a permis qu'il soit endurci pour nous à cause de nous. Et il faut le lui rendre en bien, en amour, pour qu'excité à jalousie, eh bien, il puisse à son tour, au temps voulu par Dieu, revenir dans son héritage, en sorte que les deux ne soient plus qu'un, et que juifs et païens, unis dans la foi en Jésus, bénissent Dieu dans le ciel pour l'éternité. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu as voulu ce soir nous aider à comprendre quelque chose de ce mystère d'Israël. Ce mystère dont tu dis aux profondeurs de la richesse et de la sagesse de Dieu. Et nous réalisons, Seigneur, que ce mystère n'est pas encore pleinement éclairci parce que les choses ne sont pas encore pleinement manifestées. Mais tu veux que nous réalisions quelque chose de ce mystère. Et nous voulons te rendre grâce pour le don du peuple d'Israël, pour le véhicule qu'il a été, le moyen pour nous conduire jusqu'au salut en Jésus. Cette foi plus précieuse que l'or périssable dont parlait l'apôtre Pierre, par laquelle nous pouvons avoir la certitude d'être justifiés devant toi. Merci Seigneur parce que tu nous as communiqué cette grâce par l'intermédiaire de ton peuple. Merci aussi, Seigneur, parce que tu as permis que ce peuple soit endurci pour que nous puissions nous avoir l'occasion d'entrer dans cet héritage qui était le sien et qu'il a dédaigné jusqu'à maintenant, de telle sorte qu'il est devenu notre partage. Seigneur, nous réalisons qu'à cause de cela, ce peuple a connu des tribulations. Et cela, Seigneur, tu l'as permis aussi, à cause de nous, par amour pour nous. Aussi, Seigneur, nous voulons, à cause de cela même, bénir ton peuple d'Israël. Et nous voulons, Seigneur, lui rendre ce qui lui revient, lui manifester cette affection, cet amour qui est naturel, qui est juste. Et nous te prions, Seigneur, que les manifestations de cet amour que nous aurons envers ce peuple puissent susciter sa jalousie. De sorte que se demandant d'où viennent ces choses, ces richesses des païens, il ait aussi envie de retrouver son héritage au temps que tu auras fixé. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons entrer dans cette louange, te louer, toi, pour ta bonté envers nous, païens. Cette bonté dont nous prenons un peu plus conscience quand nous nous penchons sur le mystère de ton peuple. Alors nous te bénissons pour ta bonté. Et nous voulons bénir Dieu avec ton peuple et en même temps te dire « Maranatha, viens bientôt, Seigneur Jésus, et renouvelle toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. »